Bonjour à tous, c'est Plugin, le podcast du Prismian Club. Tu es électricien, spécialiste de la fibre optique et des courants faibles, ou ingénieur en bureau d'études, ce podcast est fait pour toi. Dans chaque numéro, tu trouveras des rubriques techniques, des interviews et des témoignages pour t'accompagner dans ton métier. Plugin, Linking the Future, c'est parti. Bienvenue dans ce 9e numéro de Plugin. Au programme aujourd'hui, Électriciens sans frontières et Prismian Group dressent le bilan des actions menées au cours de cette année. Partons ensuite au Bénin avec l'ouverture de la nouvelle école de la fibre au Bénin. Nous avons rencontré Marc Leblanc, directeur commercial Europe Sud chez Prismian Group et président d'Objectif Fibre. Point d'étape ensuite sur le projet Tranufil. Philippe Flamand, directeur BU aérospatial chez Draca Fileca, une filiale du Prismian Group, nous en parle. On termine enfin avec la minute réglementaire.
Cette fin d'année est l'occasion pour nous de dresser le bilan des actions menées par Électriciens sans frontières et Prismian Group sur l'année 2022. Rappelons-le, c'est un partenariat qui existe entre les deux entités depuis 2016. Il a notamment été renouvelé en février dernier pour 3 années supplémentaires. Cette année encore, le soutien du Prismian Group a permis à de nombreux projets de voir le jour. Le village de Missaoumé, au Togo, a bénéficié d'installations pour avoir accès à l'eau et à l'électricité. Un centre de santé à Madagascar a été équipé d'installations électriques. Prismian Group a aussi participé à l'électrification et l'irrigation d'une ferme semencière au Rwanda. Mais l'investissement du Prismian Group va au-delà de la fourniture et du financement des câbles électriques. En effet, Électriciens sans frontières bénéficie du réseau d'acteurs de l'énergie dont dispose Prismian Group en France et en Europe. Pour exemple, les gestionnaires de réseaux et les installateurs de câbles. Le dernier projet qui a été mené cette année, mais pas des moindres, est l'envoi de câbles électriques à destination des distributeurs ukrainiens. En effet, Prismian Group, en partenariat avec Électriciens sans frontières, soutient les populations ukrainiennes depuis le début de la guerre. La route du Rhum a également permis d'augmenter la quantité de câbles fournis grâce à l'opération 1 clic égale 1 mètre. En tout, c'est 25 km de câbles qui ont été envoyés à l'Ukraine pour permettre aux familles d'avoir accès à l'eau chaude et à l'électricité cet hiver. Sur 2023, on peut bien évidemment noter la continuité du soutien apporté à l'Ukraine. Mais pas seulement, ESF et Prismian Group vont notamment continuer leur action en Afrique subsaharienne, au Bénin et au Togo, pour créer des plateformes solidaires dans les villages. Continuez de suivre notre actualité sur Facebook et LinkedIn. C'est en partie grâce à vos nombreux j'aime que Prismian Group a pu contribuer à fournir des câbles à Électriciens sans frontières.
On peut dire que solidarité est le maître mot de ce numéro puisque nous parlons une fois encore du Bénin, mais cette fois-ci dans le cadre de l'ouverture de l'école de la fibre, un projet qui a été inauguré en octobre dernier en présence de Marc Leblanc, président d'Objectif Fibre.
Pouvez-vous tout d'abord nous présenter le projet et les intervenants aux côtés de Prismian Group ?
Le gouvernement béninois voulait créer une école de la formation au métier du numérique et donc c'est monté un consortium dans lequel Prismian est. Alors c'est un consortium qui était piloté par la société Sofrecom, qui est une émanation du groupe Orange, qui a monté ce consortium avec un certain nombre de personnes dedans, dont le campus numérique de Montreux, dans lequel Prismian est actionnaire. Et nous, Prismian, en fait, on est intervenu à deux niveaux. D'abord, on a fourni un certain nombre de matériel pour équiper ce centre de formation et on a également participé, en fait, indirectement au design du centre de formation parce que Prismian, on est membre d'une organisation qui s'appelle Objectif Fibre. Et Objectif Fibre, en fait, est une plateforme collaborative qui a été créée en France, qui réunit toute la filière. Et en fait, cette plateforme collaborative, elle aide les centres de formation à se structurer, en ayant notamment édité un cahier des charges qui explique comment un centre de formation doit être équipé. Donc, qui donne, en fait, des recommandations sur les plateaux techniques qui équipent ces centres de formation. Donc, ces plateaux techniques, ça explique qu'il faut un certain nombre de matériel. Donc, c'est ce référentiel-là qui a été pris en compte par l'École des métiers du numérique du Bénin. Et une fois que ça a été fait, nous, Prismian, on a participé en fait en faisant une dotation de matériel, c'est-à-dire qu'on a donné du matériel pour que les apprenants du centre de formation puissent utiliser les matériels pendant leur session de formation.
Comment le Prismian Group a-t-il aidé cette école au Bénin à voir le jour ?
En fait, nous, Prismian, on est intervenu en fait sous 3 casquettes, indirectement via Objectif Fibre pour le plateau technique, indirectement via le campus numérique de Montreux, donc qui est l'organisme de formation français qui a aidé son homologue béninois à se structurer, et puis en direct parce que on a doté ce plateau technique et ce centre de formation avec du matériel, que ce soit des câbles, mais également des matériels de connectivité.
L'inauguration de l'école de la fibre s'est déroulée récemment, il me semble. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Le 3 octobre dernier, Marc Mizi, ambassadeur de France au Bénin, a participé à l'inauguration de l'École des métiers du numérique à Cotonou. L'École des métiers du numérique offre des formations courtes et professionnalisantes afin d'accompagner le déploiement de la fibre au Bénin. Donc, ce centre de formation a été inauguré par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre du numérique et de la digitalisation, et le ministre chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Et effectivement, cette inauguration s'est faite en présence des participants au montage de cette école de formation, dont Prismian, comme fournisseur de matériel pour doter ce plateau technique. Le campus numérique de Montereau, qui est l'architecte de l'ingénierie de formation, dispensé par l'école des métiers du numérique et par la société Sofrecom, qui a été le chef d'orchestre du montage de ce dossier.
Et c'est la première fois que Prismian Group est partenaire d'un projet de création d'école de la fibre ?
Alors à l'étranger, oui. Prismian en France est partenaire d'un certain nombre de centres de formation, notamment les centres de formation qui sont référencés par la plateforme Objectif Fibre. Donc nous dotons ces centres de formation d'un certain nombre de matériel qui permettent en fait aux apprenants d'être confrontés pendant leur cycle de formation au matériel qu'ils vont déployer ensuite dans leur vie professionnelle. Et donc ça fait déjà maintenant plusieurs années que Prismian est partenaire de ces centres de formation en France. Et dans le cas du Bénin, on a été sollicité par Sofrecom, conjointement avec le campus numérique de Montereau, pour faire la même action d'aider cette école à se monter et donc de les doter en matériel. En France, on est partenaire d'une vingtaine de centres de formation. L'école des métiers du numérique à Cotonou, c'est notre première participation au montage d'un centre de formation. C'est une opération qu'on va probablement reconduire. On va continuer d'accompagner cette école du Bénin. Et évidemment, s'il y a d'autres opportunités dans des pays voisins en Afrique ou ailleurs, on fera la même démarche d'accompagner ces démarches pour monter des écoles de formation qui vont permettre en fait de former les équipes locales et d'éviter que ces réseaux optiques soient déployés par de la main-d'œuvre étrangère importée, comme ça a été souvent le cas par le passé.
Parlons maintenant du projet Tranufil avec Philippe Flamand. En septembre 2020, le ministère de l'Industrie a lancé le plan France Relance pour aider la filière aéronautique à sortir de la crise. Ce plan vise également à soutenir les entreprises présentant des projets dans l'énergie verte et l'amélioration de la compétitivité.
Pouvez-vous tout d'abord nous rappeler quels sont les enjeux des industriels du domaine aérospatial ?
À l'époque où France Relance a monté le projet, effectivement, c'était dans un contexte de crise d'améliorer les productions en qualité et en productivité. Ces enjeux-là n'ont pas changé, je pense qu'ils se sont raffermis, puisqu'on est maintenant presque 2 ans après le démarrage de ce projet-là, et on voit que toute l'industrie aéronautique, elle est maintenant en train de faire face à cette montée en cadence qui est de plus en plus importante. Son enjeu aujourd'hui, c'est d'être capable d'assurer la montée en cadence et de sécuriser la supply chain qui est extrêmement en tension.
La filiale Dracafileca a présenté au service de l'État un projet de transformation numérique qui s'appelle Tranufil. Il a été financé à hauteur de 798 560 euros. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste concrètement ce projet ?
Alors, Tranufil, c'est transformation numérique Fileca. Donc, il y a 3 axes principaux. Le premier, c'est de constituer une base de données unique, dématérialisée, dans laquelle on va retrouver toutes les instructions de fabrication des produits ainsi que les caractéristiques de conception de ces produits. Tout ça, on le numérise et on le met dans une seule base de données. Ensuite, cette base de données, on va la connecter à nos machines. Numériquement, on va envoyer les éléments de fabrication sur les machines. C'est-à-dire qu'on va faire communiquer cette base de données avec nos machines. Finalement, l'opérateur, il n'est plus là pour régler la machine, il est là pour contrôler que tout se passe bien et intervenir quand il y a un... Et le dernier point, c'est de remonter également numériquement des informations en ligne pendant la fabrication sur les caractéristiques essentielles.
Quelles sont les différentes étapes du projet ?
Alors, on avait divisé le projet en 6 sous-projets. Un sous-projet qui était la base de données techniques dont je vous parlais, un projet qui était l'acquisition des données sur les machines, un projet qui était l'intégration de la base de données, donc à l'outil de production, c'est le flux descendant, et il y avait ensuite 3 petits sous-projets. D'abord, il a fallu renforcer notre réseau, c'est-à-dire qu'on a refait la totalité du câblage de l'usine sur base de technologies plus récentes que celles qu'on avait. Une fois qu'on a eu installé ce câblage et toutes les prises qui allaient bien autour des machines, on a investi également dans des serveurs informatiques, pour bien que ces serveurs informatiques puissent envoyer et recevoir de la donnée et qu'ils soient aussi capables d'héberger les applications informatiques.
Et donc là, concrètement, vous en êtes à quelle étape du projet ?
En fait, les équipements, le réseau est en place, les équipements ont été distribués aux opérateurs, les opérateurs ont été formés, la base de données est constituée. On a travaillé sur les différentes couches informatiques qui vont permettre le va-et-vient des données et le stockage des données. Et donc, voilà, maintenant, on va faire les tests sur le début de l'année. Et une fois que cette phase-là nous aura donné satisfaction, on sera prêt à charger toutes les données pour prononcer effectivement la fin du projet dans les temps impartis. Donc, c'est aussi un premier pas dans le projet de modernisation de l'usine. On est vraiment dans de l'amélioration continue, l'amélioration de la traçabilité, la sécurisation. Et pour l'instant, ce qu'on a réalisé, on voit devant nous à l'issue de ce projet, on est plutôt satisfait.
Le dispositif éco-énergie tertiaire impose une réduction progressive de la consommation d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire. C'est une stratégie nationale de réduction des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre du secteur tertiaire. Les maîtres d'ouvrage, bailleurs comme locataires, ont jusqu'au 31 décembre 2022 pour déclarer la performance énergétique annuelle atteinte par leur patrimoine. Bureaux, services publics, enseignements, administration, pour n'en citer que quelques-uns. Cette déclaration se fait via la plateforme Opéra. Avant le 30 septembre 2030, 40% d'économie d'énergie devra être faite par rapport à la consommation référente. Il s'agit de bâtiments ou parties de bâtiments dont la surface ou le cumul de surface est égal ou supérieur à 1000 m². Dans un contexte où les factures d'électricité explosent, le rôle des intégrateurs électriciens est plus que central dans la gestion des consommations énergétiques des bâtiments. L'intégrateur électricien va gérer l'intégralité des productions et des consommations au sein des bâtiments. Il va également gérer de nouvelles sources d'énergie, comme le photovoltaïque ou les IRVE, qui sont de nouvelles sources de consommation dans les bâtiments. Les actions déployées par le dispositif éco-énergie tertiaire vont au-delà des travaux de rénovation énergétique puisqu'elles impliquent d'améliorer la qualité et l'exploitation des équipements. En effet, les fabricants jouent également un rôle important puisqu'ils fournissent de nombreux produits de contrôle et de mesure, dont les intégrateurs électriciens peuvent se servir. Les intégrateurs électriciens ont la vision globale de l'énergie au sein du bâtiment. Ils sont donc les mieux placés pour conseiller les clients sur des choix énergétiques de gestion et de contrôle.
Plugging, le podcast du Prismian Club, c'est fini. N'hésite pas à partager ce podcast avec tes collègues et à en parler autour de toi. Plugging, linking the future. À très vite.